Dans l'actualité des idées aujourd'hui, sauver Sartre du sartrisme en racontant sa vie parallèle, son goût romantique, sa vie adoptive, ses amours, ses addictions aussi, son rapport à soi, à son image, tout ce qu'il était et tout ce qui se jouait aux marges de ses activités militantes. C'est le projet défendu par le philosophe François Nudelmann, auteur d'un essai biographique publié chez Gallimard, Un tout autre Sartre, où il s'interroge, en prenant un malin plaisir à brouiller les pistes, sur le « qui fut Sartre » tel qu'il l'écrit, un bariton d'opérette, un philosophe allemand, un touriste en Italie, un harangueur du peuple, un homme à femme, un écrivain caméléon, un rêveur mélancolique. Sans doute tout cela en même temps, ébauche de réponses. Les personnalités multiples de Sartre ont été vécues simultanément sur un mode compartimenté avec des passages contrariés entre ses vies officielles ou refoulées. Bonjour à vous François Nudelmann.
Bonjour Olivia, j'espère.
La philosophie et le philosophe, surtout lui, Jean-Paul Sartre, il a construit à travers sa pensée, mais aussi à travers sa vie, une sorte de grand récit de soi tel que vous le racontez. Il a exposé son parcours de manière intelligente pour que ça fasse sens pour ceux qui à la fois l'adulaient, mais aussi pour ceux qui le haïssaient. Sartre, c'est d'abord cela, un homme qui contrôlait son image, ou tout au moins le récit de lui à travers l'image qu'on en avait.
Absolument, et d'autant plus qu'il était continuellement dans l'autocritique. C'est-à-dire qu'il est ordinaire que des grands écrivains construisent leur image, surtout pour laisser comme ça un portrait pour la postérité. Mais Sartre n'a pas cessé de dénoncer ce qu'il était, conformément à son idée de la liberté aussi, qui consiste à aller toujours au-delà de ce qu'on est, de ne jamais accepter ce qu'on est. Mais il donne le récit d'une révolution permanente où il dit, voilà, j'ai été phénoménologue, mais maintenant je suis marxiste, j'ai été anarchiste, mais maintenant je suis socialiste. Et continuellement, jusqu'à la fin de ses jours, c'est ça qui est extraordinaire, il dit, voilà, il faut tout laisser derrière. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi je suis déjà en avance. Donc, il faut courir après Sartre pour le suivre. Et c'est d'autant plus difficile de prendre du recul, même du point de vue critique, parce que lui-même a fait la critique de son propre itinéraire. Donc, c'est assez retors. Et il faut savoir, mais ça, c'est d'une manière générale, il faut savoir lire, comprendre des auteurs sans faire une confiance absolue à ce qu'ils disent d'eux-mêmes.
Alors l'image publique de Sartre, on y revient, si vous le voulez bien, en son.
J'ai voulu dire, l'enfer c'est les autres. Mais l'enfer c'est les autres a été toujours mal compris.
En vérité, la guerre du Vietnam représente à la fois la réalisation dernière et le symbole de ce que c'est que l'impérialisme.
Ce qui me frappe en ce moment, c'est que pour la première fois dans l'histoire, la France, sans être occupée, a perdu sa souveraineté.
Je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel et que je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au 19e siècle devrait être retrouvé aujourd'hui.
Les honneurs, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, j'en ai refusé un, le prix Nobel, et pour les autres, j'en ai pas eu. Je ne vois pas pourquoi une cinquantaine de messieurs âgés et qui font de mauvais livres me couronneraient. C'est au lecteur à dire ce que je vaux, ça n'est pas ces messieurs-là.
Demandez la cause du peuple contre les saisies arbitraires.
Eh bien, vous voyez, nous sommes arrêtés parce que nous vendons un journal qui n'est pas interdit, qui n'a rien de scandaleux pour le gouvernement, puisqu'il ne lit même pas avant d'interdire. Soi-disant pour reconstituer une ligue que nous n'avons jamais constituée, dont nous ne faisons pas partie.
Je suis déjà vieux, et à 67 ans, on a depuis 2 ans l'âge de la retraite. Heureusement, les métiers que nous exerçons, le métier d'écrivain par exemple, ne donne pas une retraite si violente. On écrit peu à peu des choses moins bonnes, puis on finit par renoncer à écrire.
Vous parlez et vous évoquez cette figure publique de Jean-Paul Sartre, François Nudelmann, cette posture d'écrivain engagé. Elle était sincère ?
La question de la sincérité, ça c'est bon, on ne peut pas sonder les reins et les cœurs pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a derrière une affirmation? On peut se dire toutefois quand même que quand les gens affirment avec beaucoup d'insistance quelque chose, on peut soupçonner qu'ils vivent une tension ou peut-être parfois même le contraire de ce qu'ils affirment. En tout cas, je crois qu'il n'y a pas de raison de dévaloriser les engagements de Sartre. Ils ont été ce qu'ils ont été, et parfois dans le meilleur et dans le pire, avec le soutien à des causes qui sont très contestables. Mais en tout cas, Sartre était à la fois dans ce qu'il disait, mais il était aussi ailleurs. Donc il faut admettre que voilà, il y a des personnalités multiples. Si vous voulez, le but quand même de ce livre, c'est peut-être en tout cas en France, c'est de sortir Sartre de cette espèce de cliché qui fait que voilà, Sartre c'est l'engagement, c'est celui qui s'est toujours trompé. Si vous écoutez aujourd'hui les intellectuels, voilà, c'est, son compte est réglé, c'est fini. Sartre, on est passé maintenant à quoi? Alors à Camus, parce qu'on aime bien les matchs en France, on aime bien dire bah vous êtes plutôt Sartre ou Camus. Alors c'est comme ça, il faut faire des matchs. Vous êtes plutôt Stendhal ou Hugo? Vous êtes plutôt Corneille ou Racine? Bon, alors là, bon, bah, écoutez, non, on peut être un admirateur comme je le suis de Sartre et de Camus. Il n'y a pas à choisir et il faut surtout essayer de complexifier la chose et ne pas réduire Sartre à son image de harangueur sur le tonneau devant les usines Billancourt. Bon, c'est vrai qu'il y a contribué à ça, hein, à donner cette image. Mais il faut le sortir de là. C'est un auteur immense qui a des facettes d'écriture extraordinaires. Il y a encore énormément à découvrir chez Sartre. Et puis, de fait, voilà, c'est une personnalité complexe. Et ce livre vise non pas à dire ah mais vous voulez au fond c'était pas sincère ce qu'il disait. Si c'était sincère, mais il y avait une part de jeu quand il dit voilà je devais pousser mon cri mensuel ou trimestriel. On sent que malgré tout il est pris dans une sorte de peut-être de mauvaise foi. Celui qui a théorisé la mauvaise foi, il joue son personnage. Il se sent obligé de mais malgré tout, il est dans ses engagements. Et il est en même temps. Alors c'est ça qui est assez...
Et c'est intéressant parce que vous dites qu'il faut le sortir de là, de cette image dans laquelle on l'a enfermé, de cette posture dans laquelle il s'est peut-être aussi lui-même en partie enfermé. Il faut le réhabiliter d'une certaine manière aujourd'hui, lui et sa pensée, l'homme qu'il était et la vie qu'il a pu avoir, ses engagements. Ça passe par quoi? Ça passe pour vous en racontant cet autre Sartre, ces autres vies ou ces vies parallèles qu'il a pu avoir et ses contradictions et ses tensions intérieures?
Bien sûr, il faut admettre les tensions. Il faut admettre aussi, de manière générale, pas seulement pour Sartre, que même les auteurs, même les penseurs, même les philosophes, quand ils écrivent, ils incarnent un jeu, mais un jeu qui est fictif. C'est aussi un moi différent, comme le disait Proust à propos des romanciers. Le philosophe aussi, quand il dit « je » ou quand il dit « nous » ou quand il prend la prétention d'écrire « non » de tous, eh bien, c'est aussi un personnage. Donc Sartre, c'est un personnage quand il écrit des textes politiques, c'est un personnage quand il écrit de la philosophie, c'est aussi un personnage qui a des vies, je sais pas comment dire, parallèles, latérales, et c'est intéressant de faire un pas de côté pour accompagner Sartre aussi dans ce qui a été moins public et qui a été pourtant un lieu d'expérience. C'est-à-dire que il s'agit pas simplement de dire, voilà, ah ben, vous savez, la vie privée de Sartre, c'était ça, c'était amusant. Non, non. C'est-à-dire que, en fait, à partir de ces vies latérales, et il y en a eu beaucoup chez Sartre, de ces vies latérales, on peut revenir sur ces discours officiels, sur ces écrits, et les lire différemment. Comprendre que quand il est assez caricatural, par exemple, dans Qu'est-ce que la littérature, dans ses manifestes, quand il explique que voilà, c'est soit la littérature engagée ou la littérature coupable d'être complice des dominants, voilà, c'est caricatural et peut-être qu'il faut entendre ce qui se joue là psychiquement dans la construction de ces dualismes, de ces oppositions un peu simplistes. Et ça nous amène donc de comprendre qui a été Sartre, qui ont été tous ces Sartres. Ça nous amène à relire ces écrits d'une autre manière, comprendre comment se sont fabriquées ces pensées, quelles ont été les tensions à l'œuvre qui ont permis de construire ces œuvres assez extraordinaires et si diverses, parce que Sartre a écrit dans des styles extrêmement différents. Donc c'est un grand expérimentateur. Ce n'est pas un dogmatique, même s'il s'est exprimé de manière dogmatique, avec une charge héroïque dans ses engagements politiques. Mais c'est quelqu'un qui a continuellement essayé des choses, essayé des styles, essayé des vies, essayé quelquefois aussi des drogues, essayé jusqu'à la fin. Quand je disais, il s'est mis en danger, il s'est mis en jeu continuellement.
Et qui a changé changé d'avis, hein, qui a aussi su changer d'avis. En fait, vous couchez Sartre sur le divan, d'une certaine manière. Vous avez, vous allez voir aussi du côté du refoulé chez Sartre, dans cette tout autre Sartre que vous écrivez, François Nudelman. Vous aviez, vous, visiblement un désir de Sartre pour lui-même, sans récit miroir avec Beauvoir, sans opposition à Camus. On l'a peut-être aussi trop souvent réduit à cette relation et à cette amitié devenue inimitié, d'un Sartre peut-être plus apaisé. Alors les autres ont contribué à ce récit linéaire, il n'y avait pas que lui, à figer son image. Est-ce que vous avez eu l'intuition que la vérité de Sartre était ailleurs? Oui. Mais alors du coup, où est-ce que vous êtes allé chercher? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce qu'il y a des nouveaux éléments qui viennent étayer cet autre Sartre, des archives, des correspondances?
Oui. En fait, ça a été une intuition, parce que bon, voilà, moi j'ai été un étudiant travaillant sur Sartre, faisant sa thèse de philo sur Sartre. Et puis, voilà, j'ai commenté comment on doit le faire dans ce qu'on appelle l'histoire de philosophie en France. Et donc, de manière internaliste, voilà, ce qu'a dit Sartre, ce qu'ont dit les autres. Et puis, en fait, j'ai eu accès à un document, une fois, qui m'a vraiment sidéré et bouleversé. C'était un extrait d'un film de Madeleine Gobeil qui montre Sartre jouant au piano avec Arlette El-Kaïm, sa fille adoptive à côté de lui, et j'ai eu une intuition. Voilà, je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser à ce Sartre-là qui joue d'une certaine manière, parce que le jeu au piano, bon, ça révèle énormément de choses, et je me suis dit, ça correspond pas tout à fait à l'image qu'on a de Sartre. Donc voilà, je me suis livré à ça avec, bon, c'était avec aussi d'autres philosophes, c'était une piste d'étudier la pratique musicale chez eux, et puis ça m'a amené du coup à rencontrer Arlette El-Kaïm, et qui m'a un peu confirmé dans cette hypothèse, et qui m'a aussi fait découvrir un autre Sartre, un tout autre Sartre, et qui me l'a fait découvrir avec effectivement ses propres archives, c'est-à-dire des correspondances, de très très longues volumineuses correspondances, des archives audio de ses enregistrements avec elle, musicaux, et c'est énorme, hein, c'est une centaine d'heures d'enregistrements, et puis des films vidéo qui le montre effectivement dans des voyages, avec un goût du voyage qu'on n'imaginait pas, un goût touristique du voyage, c'est-à-dire non pas des voyages faits pour aller rencontrer Castro, Guevara, Tito ou Mao, hein, mais pour vraiment pour le plaisir de la méditation, de la balade. Et tout ça m'a amené effectivement à me dire, mais au fond, Sartre, il était peut-être plus proche de Stendhal que de Marx. Hein. Et c'est mon hypothèse aussi, c'est voilà, qu'il aime, c'est quelqu'un qui est aussi quelqu'un de méditatif, qui aime la promenade, qui aime le rêve, qui peut être aussi mélancolique. Vraiment, l'antithèse de l'image qu'il a laissée et qu'on garde, celui de quelqu'un qui va asséner des vérités politiques et qui n'aurait pas, comme ça, ses pas de côté. Ben si, au contraire. Et donc, en accédant à toutes ces données, voilà, je me suis dit, il faut vraiment montrer, non pas que Sartre est tout autre, mais qu'il y a plusieurs Sartres et qu'ils sont compatibles, mais qu'il faut aussi, bon, arriver à les relier, comprendre comment il y a des vies hétérogènes, des vies effectivement séparées, mais qui ont quand même des liens, parce qu'il fait des expériences, comme je disais tout à l'heure, qui l'ont amené à écrire différemment. Bon, il y a beaucoup d'inédits, il y a beaucoup d'inachevés aussi, des tas de choses que Sartre s'est empêché d'écrire, par exemple ses textes sur l'Italie. Bon, voilà, il disait, et pendant ce temps-là, il faut plutôt que je laisse ça pour écrire, pour pousser mon cri, pour défendre le communisme ou pour défendre la cause algérienne. Donc, encore une fois, c'est pas du tout pour dévaloriser ses engagements, mais Sartre n'était pas entièrement dans ses déclarations politiques.
Il s'est senti mangé ou dévoré par ses obligations aussi, par ce personnage en partie qu'il avait créé. Effectivement, il avait à côté de ça un amour pour la littérature, amour pour la musique. Vous évoquez cette sensibilité musicale très très forte chez lui, entretenue d'abord par sa mère qui l'avait mise au piano, en tout cas avec qui il jouait lui du piano. Il y a ce goût pour Chopin, pour le jazz et le chant. On vous racontait aussi comment il aimait rire ou sourire ou voir faire l'idiot. Et ça, c'est des images que vous avez pu voir dans un film Super 8. On va revenir parce que vous avez évoqué ce nom assez peu connu pour le grand public, celui d'Arlette El-Kaïm, cette femme, autre femme de sa vie finalement, hein, sa fille, fille adoptive, qui a grandi, évolué à ses côtés dans l'ombre de Simone de Beauvoir. En 64, il l'adopte, hein, elle devient sa fille, elle est légataire de son œuvre. Elle va consacrer d'ailleurs sa vie à elle, à l'édition des œuvres de Jean-Paul Sartre. Comment a-t-il désiré cette paternité, lui qui avait toujours officiellement, en tout cas, refusé l'idée d'être père?
La formule est très belle quand il se voit à la coupole et qu'effectivement il lui dit « et si on s'adoptait ?» Donc c'est un choix donc aussi bien de la fille que du potentiel père. Ça peut paraître surprenant de la part de quelqu'un qui a écrit dans les mots voilà que la paternité est pourrie, hein, il faut pas en vouloir au père, mais la paternité est pourrie. Et voilà, il devient père symbolique. Et au fond, il y a plusieurs raisons. Bon, ce sera un petit peu long d'expliquer. Bon, c'est certain.
Mais elle était déjà adulte, hein, et il change sa vie à elle en l'adoptant aussi.
Oui,
hein.
Elle avait un père biologique. Mm-hmm. C'est une jeune femme, une jeune fille qui est venue d'une juive de Constantine et qui donc a écrit à Sartre une petite missive comme ça, comme une bouteille à la mer, lorsqu'elle est arrivée en France, et une correspondance a commencé, et ensuite voilà, une amitié intellectuelle très forte s'est construite. Et alors c'est sûr que cette adoption a beaucoup choqué la petite famille, comme on dit. Mais en tout cas, pour Sartre, alors c'était un souci malgré tout de penser à sa continuité. Il pouvait aussi avoir des accidents vasculaires à ce moment-là, lorsqu'il faisait des voyages en URSS, qu'on le faisait beaucoup boire, etc. Enfin bref. Et donc, il a eu tout d'un coup ce souci que quelqu'un s'occupe de ses manuscrits, s'occupe de lui aussi. Et donc, c'est ce qui a décidé cette adoption. Maintenant, il peut y avoir des raisons, bien sûr, beaucoup plus complexes, psychiques, mais ça, voilà. Moi, je ne suis pas un interprète et pas un psychanalyste, donc. Mais en tout cas, c'est certain que ça a été une relation très différente de celle que Sartre avait avec d'autres femmes, puisque, comme vous le savez, la relation de fidélité absolue à Simone de Beauvoir jusqu'à la fin n'a pas empêché des relations très fortes avec d'autres femmes. Une multiplicité, mais celle qu'il a nouée, cette relation qu'il a nouée avec Arlette El-Kaïm n'a pas d'égal. Sur de multiples points, il a vécu des choses avec elle, pas seulement en musique, mais dans ses voyages, mais il a vécu un type de relation qui est très, très singulier.
Sans jalousie de Simone de Beauvoir?
Si, bien sûr, mais jalousie de tout le monde, parce que tout le monde aurait voulu, autour de Sartre, être le fils spirituel, la fille préférée, etc. Bon, ça, c'est certain.
Et ce fut elle, et elle est, ou elle a choisi d'être extrêmement discrète. Hein. Elle apparaît très peu, Arlette El-Kaïm, sur la photo officielle de Jean-Paul Sartre. Vous avez choisi de lui tendre votre micro, François Nudelmann. On écoute Arlette El-Kaïm parler musique, justement.
En 1962, après le plasticage du 42 rue Bonaparte, il n'avait plus de piano. Il avait un piano au 42.
Par les défenseurs de l'Algérie française. Hein,
c'est ça, par l'OS, les défenseurs de l'Algérie française. Donc il n'avait plus de piano, il n'avait plus de maison. Il m'a demandé si je voulais bien avoir un piano chez moi. Quoi. C'était le seul endroit où c'était possible. Il avait une espèce de douceur en accompagnant, de sensibilité, et des fois de gaieté. Alors, au début, on ne se prenait pas du tout au sérieux, hein, il faut dire. Au début, ça n'a pas marché tout seul parce que j'accélérais ou je ralentissais sans trop le savoir. Et il me disait, comme disait mon grand-père, rendez-vous au bas de la page. Mais après, on a fini par s'entendre et c'était pas désagréable. On s'enregistrait pour voir aussi les progrès qu'on faisait ou qu'on faisait pas.
Les moments musicaux de Sartre avec Arlette auraient pu rester sans archives, écrivez-vous François Nudelmann. Et de fait, chacun d'eux en a très peu parlé, sans aucun détail sur leur répertoire de prédilection. Vous avez-vous retrouvé quand même quelques-unes de ces archives et surtout entendu le récit que faisait Arlette El-Kaïm de ces moments, hein. Ouais.
C'est amusant parce que en écoutant ça, je me dis au fond, ça m'a fait penser aux affinités électives de Goethe. Le passage où Édouard et Charlotte, Odile, pardon, je confonds avec Werther, où Odile, ils jouent faux tous les deux, mais tout d'un coup, ils vont s'accorder. Et quelque chose va se créer où il joue quelque chose qui est même pas reconnaissable par le compositeur, mais ça va matcher, ça va créer de l'affinité. Et c'est vraiment Sartre et Herlet parce qu'ils sont tellement différents, c'était tellement impensable qu'ils se rencontrent que quelque chose va se créer entre eux, une affinité tout à fait improbable.
C'est un homme tel que vous le décrivez, pas très doué pour le bonheur, hein, même s'il y aspire. Hein, il ne s'aimait pas, racontez-vous. Elle était là aussi la lutte intérieure. Permanente.
Oui, c'est certain, il y a une tension qui le rend, enfin, pardon, c'est très personnel, mais qui le rend très sympathique. Parce que, au fond, ce personnage dont on garde l'image tout à fait fausse de quelqu'un qui est péremptoire, comminatoire, il a écrit des choses comminatoires. Bon, quand il dit, oui, les frères Goncourt, Flaubert, sont responsables de la Commune parce qu'ils n'ont rien écrit pour l'en empêcher, bon, ça, c'est comminatoire. Mais, au fond, vis-à-vis de lui-même, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, dit qu'il faut, pour penser, il faut arriver sans arrêt se casser les os de la tête, hein, il pense contre lui-même. Et ça le rend très sympathique. Parce que dès le départ, je vois dans ses carnets de la drôle de guerre, quand il est en prison, emprisonnier en Allemagne, dans un camp de prisonniers, il dit sans arrêt voilà, qu'il traque sa mauvaise foi. Hein. C'est-à-dire qu'il dit, oui, je pourrais essayer d'être stoïcien pour résister à cette ambiance épouvantable, mais au fond, là, qu'est-ce que je fais? Je joue à être stoïcien. C'est quelqu'un qui cherche à débusquer, un peu comme La Rochefoucauld, qui vient à débusquer l'amour propre, les fausses raisons, oui, sa mauvaise foi. Et ça, continuellement, on sent chez Sartre un refus de se la jouer, quoi, hein, qui est tellement typique du narcissisme des intellectuels, qui sont là vraiment très heureux dans leur formulation, et qui se regardent en train de penser, bah Sartre, vraiment, c'est le contraire. Et alors, évidemment, ça l'empêche de, sans doute d'être heureux. Hein. On n'aimerait pas être dans la peau de quelqu'un qui, sans arrêt, fait sa révolution permanente et se conteste, mais...
Bah, vous l'écrivez, hein, il s'empêche d'être heureux car le bonheur est coupable.
Oui,
hein.
Oui. Ouais.
Et vous citez Camus, Camus, que vous avez réussi à botter hors de ses pages, globalement, qui apparaît assez peu dans ses lignes. Camus lui avait pourtant bien dit, le bonheur, ça existe, ça compte, pourquoi le refuser? En l'acceptant, on n'aggrave pas le malheur des autres et même ça aide à lutter pour eux. Je trouve regrettable cette honte qu'on éprouve aujourd'hui à se sentir heureux. Mais il n'a pas écouté Camus, hein, sur le coup, non?
Alors, pour revenir,
il a tenté, peut-être.
Pour revenir à ce que vous disiez à propos d'Arlette et la musique, quand on entend Arlette et El-Khaïm et Sartre jouer, chanter, rire, parce que Sartre effectivement fait le pitre, il chante Le Roi de Tulé, il chante de manière outrancière des mélodies de forêt. Là, il y a une espèce de légèreté incroyable, et on se dit là vraiment c'était le bonheur, ce qui se passait dehors, la fin dans le monde, les luttes politiques, etc. Tout d'un coup c'était devenu très loin, et il n'y a plus cette culpabilisation, cette auto-culpabilisation de Sartre. Là, disant, c'est pas possible, un bourgeois comme moi, je dois absolument expier. Non, là, il y a des moments de bonheur avec Arlette.
Le philosophe François Nudelmann est notre invité à l'occasion de la publication chez Gallimard de Un tout autre Sartre. France Culture, il est 13h19.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Pourquoi faut-il prendre ce Sartre-là aussi au sérieux? Et si ces vies parallèles n'étaient pas à la marge, mais centrales, nécessaires à la production aussi d'un engagement, voire d'une pensée philosophique, Sartre, piégé par l'image qu'on a de lui, il en avait conscience, mais on l'écoute.
Je me suis trouvé ainsi, à un moment donné, constitué par un ensemble d'hypothèques que le public et les gens qui me lisent ont sur moi, qui ne correspondent pas toujours à mes choix premiers, mais que je suis obligé d'assumer, finalement, parce que ça, c'est moi pour les autres. Et comme moi pour moi, ça n'existe pas plus que pour les autres, ou alors c'est une torture, le moi pour moi, c'est vraiment le malheur. En fait, donc, je suis obligé d'assumer une personnalité qui m'échappe par beaucoup de côtés. Et qui décide, en dehors de moi, très souvent, car en effet, si j'ai pris part à un certain type de manifestation. Pour telle question politique, je suis obligé de prendre part à une manifestation analogue pour un problème qui relève au fond des mêmes questions fondamentales. Me voilà donc, comme ça, m'échappant. Il n'y a rien à faire, ce sera toujours ainsi. Mais je pense que finalement, c'est ce qui arrive à tout le monde, si vous voulez. C'est ça ma réalité objective. Elle est aliénée, c'est normal, nous sommes tous aliénés. Il faut se débrouiller comme on peut. Alors il me reste une petite marge de choix. Il faut l'utiliser jusqu'à ce que la masse pratico-inerte ne me donne plus aucun choix. À ce moment-là, je serai une potiche.
Cette petite marge, comment il l'a utilisée jusqu'au bout?
Bon, c'est depuis le départ, hein, là, c'est après la critique de la raison dialectique, mais depuis le départ, c'est sa définition de la liberté. Hein, cette petite marge qui permet de ne pas répondre entièrement de ses conditionnements, hein, de ne pas être totalement à l'image de ce qu'on a voulu qu'on soit, hein, ce que les autres ont voulu qu'on soit. Mais on n'échappe pas à l'aliénation, hein, bien sûr. L'enfer, c'est les autres, ça reste effectivement ce qui me fige dans un moi que je ne suis pas. Bon, ça, c'est son idée philosophique. Maintenant, évidemment, Sartre a continuellement essayé de dépasser cette image. Alors, c'est toujours la question essentielle, c'est la question de la mauvaise foi, du mensonge à soi-même. Parce qu'au fond, on peut dénoncer l'imposture du moi que les autres vous plaquent. Voilà. Mais comment on peut savoir qu'on ne se ment pas à soi-même, hein? Ça, c'est une question très, très difficile. Donc, Sartre, évidemment, là, il trouve des compromis, il négocie avec lui-même, il est conscient aussi de temps en temps du rôle qu'il joue. Hein. Et il n'arrive pas à résoudre la contradiction. Qui pourrait la résoudre définitivement? Il faudrait pour ça qu'il soit en surplomb et qu'il dise « voilà, je suis en train de me regarder faire et puis je corrige les impostures ». Ah non, voilà, de toute façon, on est tous là. Hein. On est tous en train de dire « voilà, au fond, on aimerait bien être en accord avec ce qu'on pense, mais quelles sont les raisons profondes qui font qu'on pense ce qu'on pense ?» Bon, et Sartre, voilà, est dans cette intranquillité perpétuelle jusqu'à la fin. Il ne s'assoit pas sur ce qu'il est. Il refuse les honneurs, refuse le Nobel. Il est toujours ici et ailleurs. D'ailleurs, je profite pour dire qu'en même temps que mon livre paraît Situation 6, qui est donc le volume de ces textes qui ont été collectés par Sartre, de ces textes de circonstances, mais auxquels il tenait beaucoup. Et Arlette Elkaïm avait tenu à ce qu'on refasse une édition qui soit celle-là chronologique et non plus thématique. Et on voit bien, grâce à ces éditions chronologiques, combien Sartre, effectivement, est toujours ici et ailleurs. Il peut aussi bien écrire sur Merleau-Ponty que sur les préfaces à Frantz Fanon, que sur un artiste. C'est extraordinaire de voir combien il est partout. Il est ailleurs, il se déplace, il est toujours ici et ailleurs. Donc cette petite marge, eh bien, elle est vécue dans la sollicitation, dans le fait que Sartre est disponible, qu'il ne s'enferme pas dans un discours, dans ce qu'il est, dans une image de lui-même.
Et sans réécrire l'histoire, et sans réécrire ses engagements et le sens profond qu'il leur donnait aussi, vous racontez, on pourrait dire par l'anecdote, mais aussi certains de ses partis pris, certaines de ses attirances politiques à travers ses vies parallèles. On peut prendre quand même l'exemple de l'URSS. Est-ce qu'il a été aveuglé par la réalité du communisme et aussi peut-être par l'amour? Vous racontez cette liaison, cet amour qu'il avait pour sa traductrice Lena Zonina. C'est notamment pour elle qu'il va décider d'intervenir à l'UNESCO. À un moment, il va écrire dans ses correspondances « C'est la première fois de ma vie que je mettrai les pieds dans ce bordel. À cause de toi, mon amour, si les gens savaient ce que cette grande passion pour la confrontation des cultures cache, sais-tu que sans toi, rien de tout cela ne serait arrivé, que ce rendez-vous à l'UNESCO n'aurait pas eu lieu, même pour les autres, tu es la confrontation Est-Ouest, ou plutôt l'Ouest et l'Est se confrontent dans notre lit, ce que l'Ouest peut faire de mieux, c'est de te prendre dans ses bras, ce que l'Est peut faire de mieux, c'est de fermer les yeux et de me sourire délicieusement, comme tu le fais, je t'aime, ô mon bel Orient, mon soleil levant.
Magnifique, non?
Il aurait dû écrire des romans d'amour, peut-être. Hein. Non, mais ça, c'est intéressant aussi de raconter du coup ce qu'a pu être un engagement à un moment, à la lumière, finalement, de choses extrêmement humaines qu'on a tendance à sous-estimer dans ce grand récit du Sartre qu'on fait aujourd'hui.
Bien sûr, il ne faut pas...
En fait, Sartre était un homme.
Il faut se méfier de l'esprit de sérieux. Lui-même a sans arrêt voulu condamner l'esprit de sérieux. Alors, c'est anecdotique, mais en même temps, c'est intéressant de savoir que cette grande conférence qui est magnifique hein, sur Kierkegaard, qu'il n'avait pas de plaisir à lire, il le dit vraiment, quelle corvée, mais bon, c'est la monnaie d'échange pour obtenir qu'on organise quelque chose sur Est-Ouest qui permette à Lena Zonina d'obtenir un visa pour venir, puisqu'elle était quand même dans un monde totalitaire où il n'était pas facile de se déplacer. Donc Sartre s'accommode. Alors, c'est vrai qu'on pourrait avoir un jugement moral. Bon, moi, je ne fais pas de moral, j'aime pas juger, je veux même pas interpréter, mais je constate et j'essaye de voir comment il se débrouille. Hein. Mais c'est-à-dire que c'est pas simplement une affaire privée, parce qu'effectivement, ça donne des échanges, ça permet de comprendre aussi des torsions dans des déclarations qui sont contradictoires. Mais encore une fois, la contradiction ne doit pas être forcément condamnée. Bon, c'est certain que quelques formules peuvent a posteriori être vraiment condamnable, scandaleuse, voilà. Mais bon, ça je laisse aux imprécateurs. Il y en a suffisamment comme ça à propos de Sartre. Le plaisir de dire que c'est honteux, voilà. Moi, je suis pas un imprécateur. J'essaye de comprendre et
justement, oui, on va terminer là-dessus, François Noodleman, sur cette double démarche hein, que vous avez eue, comme vous l'explicitez, faire voir l'inédit et réinterpréter le connu. Si le vrai Sartre, il n'existe pas, et peut-être que le vrai François Noodleman non plus par ailleurs. Où est-ce que Sartre est le plus lui-même pour vous aujourd'hui?
Nulle part. Je pense pas qu'on puisse dire.
Et d'abord, partout, d'abord, comme vous l'avez raconté.
Être soi-même, déjà, c'est une posture de mauvaise foi. Donc Sartre, il est tout le temps ailleurs et dès qu'on essaye de le saisir, au fond, je crois qu'on perd de vue la richesse, l'inventivité de Sartre qui, encore une fois, est un génial expérimentateur. Et je crois qu'il faut, c'est ce à quoi j'invite, il faut le redécouvrir et le sortir de la gangue politique dans laquelle il s'est lui-même enfermé.
Merci beaucoup à vous, François Noodleman, un tout autre Sartre. Votre essai biographique vient d'être publié chez Gallimard. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Aurélien Delacroix avec Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez, Anouk Delfino et Madeleine Martineux pour La Grande Table des Idées. À la réalisation aujourd'hui encore, c'était Thomas Beau avec Élise Le. Demain, autour de votre grande table, Ayam, le rap marseillais à l'honneur, puis Pascal Bruckner et la théorie du bouc émissaire blanc, l'essayiste sera l'invité de notre grande table des idées à partir de 12h55.